Bonsoir à tous et bienvenue au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, pour notre 51e soirée d'éthique publique, la 7e de cette année universitaire. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue aussi à ceux qui sont en lien avec nous par retransmission en direct, un réseau qui ne cesse de s'élargir. Du plus proche au plus lointain, je salue nos amis de Chaville, c'est proche effectivement, de Poitiers, de Bordeaux, de Saint-Étienne, de Lyon, d'Aix-en-Provence et d'Athènes, là c'est plus loin, qui sont avec nous ce soir. Il est toujours possible, vous le savez, d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de nos soirées sur le site internet du Centre Sèvres. Le mois dernier, nous nous sommes intéressés à la réalité politique de notre pays au lendemain du second tour des élections municipales. Politique, peut-on encore y croire, avec Philippe Meyer et Marc Mortureux, vaste sujet qui reste d'actualité. Le mois prochain, mardi 3 juin, ce sera notre dernière soirée d'éthique publique de l'année universitaire. Nous envisageons de regarder ce qui se passe à l'Est, en Ukraine, en Russie, aux portes de l'Europe. Que veut M. Poutine? Que faut-il craindre de la nouvelle Russie? Tel pourrait être le titre de notre soirée. Ce sujet n'est évidemment pas sans lien avec celui qui nous rassemble ce soir sur l'Europe. Ce n'est pas la première fois que nous abordons l'enjeu européen lors de nos soirées. Les plus fidèles, et j'en reconnais, se souviennent de la soirée sur le thème « Où va l'Europe ?» avec Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire d'État chargé des affaires européennes, et Pavel Fischer, à l'époque ambassadeur de la République tchèque à Paris. Celle sur le thème « Crise de l'euro, crise de l'Europe » avec Tommaso Padoa-Schioppa, l'ancien ministre italien des Finances, Jean-Louis Bourlange, ancien parlementaire européen, et Gaël Giraud, jésuite. Celle enfin avec Alain Lamassoure, député européen, et Jérôme Vignon, ancien directeur à la Commission européenne, sur le thème « Quelle Europe voulons-nous? Quelle Europe pouvons-nous ?» Finalement, c'est toujours un peu la même interrogation qui nous travaille et qui est très présente, alors que nos concitoyens sont appelés à voter bientôt pour élire les 74 députés français qui les représenteront au Parlement européen pour les 5 années à venir. Pour introduire notre soirée, je voudrais relire, beaucoup connaissent ce passage, cet extrait des mémoires de Jean Monnet. Le temps passe et l'Europe tarde sur le chemin où elle s'est déjà profondément engagée. Nous ne pouvons nous arrêter quand aujourd'hui le monde entier est en mouvement. Ai-je assez fait comprendre que la communauté que nous avons créée n'a pas sa fin en elle-même? Elle est un processus de transformation qui continue, celui dont nos formes de vie nationales sont issues au cours d'une phase antérieure de l'histoire. Comme nos provinces hier, aujourd'hui nos peuples doivent apprendre à vivre ensemble sous des règles et des institutions communes librement consenties s'ils veulent atteindre les dimensions nécessaires à leur progrès et garder la maîtrise de leur destin. Les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent, et la communauté elle-même n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain. Je crois que c'est intéressant de réentendre ce que disait Jean Monnet. Qu'en est-il aujourd'hui? L'Europe ne fait plus rêver, plus encore peut-être que la colère, encore que la colère soit parfois présente, elle suscite l'apathie, comme si le projet avait échappé aux Européens eux-mêmes. Pourquoi ce désenchantement? Est-ce parce que la construction européenne n'a pas été assez loin, assez vite, notamment en se donnant des institutions, un visage et des pouvoirs reconnus et respectés? Est-ce parce qu'elle a peu à peu pris de la distance par rapport au projet initial? Est-ce parce que le déficit démocratique n'a jamais réussi à être comblé, éloignant de plus en plus les citoyens du fonctionnement européen? À qui la faute? Aux fonctionnaires de Bruxelles, souvent dénoncés comme des bureaucrates coupés des réalités? Aux gouvernements nationaux, peu enclins à donner à l'Europe sa véritable place, mais promptes à lui faire porter le chapeau de toutes les difficultés? plus que jamais, il est important de se réapproprier l'Europe, de redéfinir un projet et un avenir. Est-il possible de relancer la construction européenne? Sur quelle base? Pour mener quelle politique? Comment se réapproprier l'Europe? C'est le thème du dernier numéro de la revue Projet, qui est partenaire de cette soirée. Revue, vous le savez, éditée par le CERAS, le Centre de Recherche et d'Action Sociale animé par les Jésuites, numéro que vous pourrez vous procurer tout à l'heure au stand de presse qui se trouve à l'extérieur. Et pour nous aider à réfléchir ce soir, eh bien, je suis heureux d'accueillir deux auteurs de ce numéro. D'abord, M. Pierre Defresne, économiste belge. Vous êtes actuellement directeur exécutif de la Fondation Madariaga Collège d'Europe, think tank bruxellois qui réfléchit en quelque sorte à l'avenir de l'Europe. Après une longue carrière comme fonctionnaire européen de 1970 à 2005, vous avez été notamment, je crois, directeur général adjoint à la Direction générale au commerce, après avoir été chef de cabinet de Pascal Lamy lorsqu'il était commissaire européen au commerce. Vous avez été également directeur des relations Nord-Sud entre 1985 et 1999, et auparavant chef de cabinet d'Étienne d'Avignon, alors vice-président de la Commission européenne. Vous enseignez l'économie politique, notamment au Collège d'Europe à Bruges et à l'Institut d'études européennes à l'Université catholique de Louvain, ainsi qu'aux facultés universitaires Saint-Louis en Belgique. Merci beaucoup de votre présence ce soir parmi nous et de nous partager en toute simplicité votre expérience et votre vision de l'Europe. Avec nous également ce soir, M. Denis Clerc. Ce n'est pas la première fois que vous intervenez dans ces soirées, puisque vous étiez venu en 2009 lorsque nous avions évoqué la question du RSA, le revenu de solidarité active. Également économiste, vous avez lancé en 1980 la revue Alternative économique, dont vous resterez le directeur jusqu'en 1993, et vous continuez aujourd'hui à être conseiller de la rédaction. Au début des années 2000, vous avez présidé l'association Économie et Humanisme, éditrice de la revue du même nom, fondée par le père Lebret durant la Seconde Guerre mondiale. Vous en resterez président jusqu'en 2004. Vous êtes un observateur attentif des évolutions de l'Europe et notamment de sa politique sociale, d'où l'article que vous signez dans ce numéro de la revue Projet, « Le social, jambe atrophiée de l'Europe ». Merci beaucoup de votre présence ce soir. Voilà, sans plus attendre, eh bien, je laisse la parole à nos deux invités, 20 minutes environ chacun, comme nous en avons l'habitude, avant d'ouvrir le débat, et je laisse la parole à M. Pierre Defresne.
Merci de cet accueil, merci de la possibilité d'un échange avec un réseau au-delà de l'histoire de ce soir. C'est vrai que l'Europe surprend. Longtemps, elle a été un thème de rassemblement. Longtemps, un demi-siècle peut-être, l'Europe a été perçue comme un facteur de stabilité, de paix, de prospérité partagée. La libre circulation, les programmes Erasmus, la politique de l'environnement, l'aide au développement, tout ça, ce sont des succès indéniables de l'Europe et qui habite encore nos mémoires, mais aujourd'hui l'Europe est devenue objet de contradictions. Et on se dispute à propos de l'Europe et on se dispute durement. Et pourquoi? Mais tout simplement parce que derrière la complexité du dossier européen, les gens regardent les choses et jugent l'arbre à ses fruits, sans trop combien comprendre pourquoi ni comment, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est il y a du chômage, les inégalités croissent, la pauvreté augmente, l'Europe est impuissante. Elle n'a pas prévenu la crise, elle ne l'a pas prévue non plus, et en tous les cas, elle n'arrive pas à nous en sortir. Et la deuxième chose que les gens ont observée, c'est que ces derniers deux ans, et surtout ces derniers mois, le monde a changé beaucoup, mais notamment dans notre voisinage, l'Europe n'a pas réagi au printemps arabe. Elle est restée silencieuse devant la tragédie syrienne. Elle a vu Poutine prendre la Crimée à l'Ukraine sans autre réaction que des déclarations de vagues sanctions qui n'ont aucun effet. Du coup, les gens se disent, et même sur le plan extérieur, l'Europe qui promettait tant ne délivre plus. Donc sur ces deux plans, l'Europe est prise en défaut par l'opinion, et c'est de ça que je voudrais essayer de parler maintenant. Moi, je crois que, bon, c'est très compliqué, et je vais essayer de faire simple, sans faire trop simple, et de toute manière, Denis Clerc est là, et qui a cette qualité d'intelligence lumineuse qu'on lui reconnaît, et de connaissances encore plus parfois pointues que les miennes, alors que c'est mon métier, et il corrigera si je m'égare. Le nœud de mon argumentation, c'est de dire l'Europe traverse trois crises en même temps. Une crise systémique du capitalisme de marché occidental. Déjà, tout ça demanderait une explication. J'y la limiterai au minimum. Une crise de la gouvernabilité de l'Union européenne. Et puis, j'y ferai simplement allusion, une crise de l'impuissance européenne dans le monde. Ce qui fait beaucoup. Alors, le marché, le capitalisme de marché est en crise. Ça a commencé aux États-Unis, ça s'est poursuivi en Europe, ça a finalement affecté tout le monde, étant donné l'interdépendance des économies. Cette crise est difficile à analyser, mais en gros, on peut dire son origine, elle est dans le capitalisme lui-même, qui a été la force dynamique derrière la mondialisation. Mondialisation qui, en soi, est une excellente nouvelle, parce qu'elle aboutit à faire converger des économies pauvres et riches vers un monde plus juste, mais aussi plus difficile à gérer, puisque dorénavant, les rapports de force ont changé, nous ne sommes plus les maîtres, nous devons partager le pouvoir. Et par ailleurs, ces nouveaux pays, à commencer par la Chine, en convergeant vers le haut, consomment de plus en plus d'énergie, de matières premières et de nourriture, font monter les prix, créent des pénuries et accélèrent en tous les cas l'aggravation de la crise du climat. Donc, tout d'un coup, ce système économique dans lequel nous vivons, et qui s'appelle le capitalisme, quelque part a réalisé une avancée importante pour l'humanité, mais en même temps s'est mis lui-même en péril et a mis nos sociétés en danger. Et je n'entre pas dans le détail, mais pour moi, la dimension première de la crise, c'est quand même l'importance excessive de la finance. Je crois qu'il y a une dérive financière qui s'est produite. La finance a décroché de l'économie réelle, elle a assujetti l'économie réelle, elle s'est enrichie, engraissée, hypertrophiée aux dépens de l'économie réelle, elle a créé de l'instabilité à travers le surendettement et à travers la spéculation. Elle a aussi aggravé les inégalités, même si les inégalités ont beaucoup de sources, mais la finance a compliqué tout, notamment en organisant l'évasion fiscale sur une échelle qu'on n'a jamais connue. Un seul chiffre, je n'en citerai pas beaucoup, M. Van Rompuy, le président du Conseil européen, rappelait récemment que rien que pour l'Europe, les pertes d'impôts engendrées par l'évasion fiscale en Europe, c'est 1 000 milliards d'euros. Alors vous pensez, ça fait quelque chose comme 6% du PIB communautaire, avec ça on arriverait à consolider l'euro sans problème. Donc, nous avons cette crise du capitalisme qui se traduit pour nous par des changements très importants. D'abord, l'Occident, et notamment l'Europe, a perdu le monopole des emplois bien rémunérés, des emplois manufacturiers, de ceux qui créent les classes moyennes. Dorénavant, nous partageons ces emplois avec les nouveaux États, notamment la Chine. Je l'ai dit tantôt, les prix de ce que nous avons acheté pendant longtemps à très bon marché ont explosé, l'énergie, les minerais, les matières premières. Tant mieux pour les pays qui les produisent, mais pour nous, on est pris en ciseaux. On voit d'un côté nos emplois menacés, nos salaires baisser et nos pouvoirs d'achat diminuer. C'est une obligation pour l'Europe et les États-Unis, pour nous particulièrement, de s'ajuster à cette nouvelle donne mondiale qui renverse une perspective que nous avons connue pendant 2 siècles. Donc c'est un changement radical, profond, et on n'y reviendra plus. Et c'est ça l'ampleur du choc que traversent aujourd'hui nos sociétés. Et dans le même temps, le deuxième aspect, c'est que ce capital qui s'est globalisé échappe à la maîtrise par le politique. C'est lui qui arbitre entre les régimes nationaux de protection de l'environnement, de protection sociale, évidemment les régimes fiscaux. Le poids relatif du capital qui est mobile, qui circule à l'échelle de la planète, et des États qui sont confinés dans leur territoire, tout cela a changé de sorte que le capital a de plus en plus le dernier mot. Et qui va réguler le capital, sinon une instance internationale? La seule qui soit prête à le faire, qui ait les capacités de le faire de manière opérationnelle, c'est l'Europe. Il n'y en a pas d'autre. Mais la tentative de faire ça est compliquée, puisque quand on est sur la scène internationale, on n'est plus entre nous avec les Américains, les Australiens, les Canadiens. Non, dorénavant, il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a les Russes, il y a les Indonésiens, les Brésiliens, l'Afrique du Sud. Donc tout d'un coup, nous avons à partager la responsabilité du monde, et notamment la responsabilité de réguler ce capitalisme globalisé, avec des pays qui sont nos concurrents et qui ont développé des modèles de croissance différents des nôtres. Et c'est parce qu'ils ont développé des modèles différents des nôtres qu'ils arrivent à nous rattraper. Ce qui évidemment nous donne, ce qui nous interpelle profondément. Ils ne nous imitent pas, ils font autre chose et ils ne prétendent pas changer si vite tant qu'ils gardent leur avance. Enfin, pas une avance absolue puisqu'ils sont derrière nous, mais l'écart se réduit de plus en plus. Ils ne vont évidemment pas changer facilement d'avis pour s'aligner sur un modèle global. Ça, je dirais, c'est le problème numéro un que nous avons à rencontrer comme Européens. Comment réguler le capitalisme global? Comment négocier avec les puissances émergentes? Comment aussi assurer la sécurité de nos approvisionnements, aussi bien en réglant un problème clé comme celui du climat, que de veiller à ce que l'accès physique aux pays producteurs de matières premières et d'énergie ait un accès loyal et honnête de toutes les parties intéressées à ces sources de matières premières? Comment organiser tout cela? Je répète, seule l'Europe peut le faire, à la dimension pour le faire, les États membres ne comptent plus. Les États membres ont du mal à l'accepter, sont dans le déni et dans l'impuissance. Je fais une toute petite parenthèse sur la France qui, moi, me stupéfie comme Belge, qui aime beaucoup la France et qui la connaît, je crois, assez bien. J'ai toujours été admiratif du système de la Ve République. Et puis je me rends compte que ce système est complètement maintenant en porte-à-faux par rapport à la réalité, puisque vous choisissez 2 présidents, coup sur coup, très différents l'un de l'autre, qui prétendent au départ avoir des modèles très différents et qui, je crois, fondamentalement, sont des gens différents, avec des conditions, des convictions différentes. Il y en a un qui est de droite, il y en a un qui est de gauche. Ils font la même politique. Ça devrait quand même nous interpeller, nous demander qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne puisse plus faire que ça. Ben, je dis, c'est parce qu'on n'exploite pas la dimension européenne. On va voir maintenant pourquoi l'Europe résiste à un changement. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la crise, l'Europe n'est pas gouvernable. Pourquoi? Je crois parce qu'elle n'a pas le bon logiciel pour aborder la crise. L'Europe, c'est un bâtiment de haute mer pour le calme plat ou les vents arrière, encore mieux. Mais l'Europe n'a jamais été préparée à affronter une crise de cette ampleur. Et pourquoi est-ce que l'Europe n'a pas cette capacité? Je crois parce que la division du travail entre l'Europe et les États membres rend la gestion de l'ensemble complètement dysfonctionnelle. je prends trois exemples, mais c'est le cœur du problème qu'on aborde maintenant. Premier exemple, c'est vraiment les origines de l'Europe. On dit souvent l'Europe, c'est une construction franco-allemande basée sur la réconciliation. Bon, c'est bien gentil, mais ce n'est pas vrai, bien évidemment. La réconciliation est venue après, beaucoup plus tard. Ce qui a commencé par être la réalité, ce sont les Américains avec le plan Marshall devant la pression soviétique qui a poussé au réarmement de l'Allemagne et mené à trouver la CEECA, et puis après, de la CEECA, on est passé à la CEE. Mais au départ, l'Europe se construit sur une division du travail vraiment très problématique. La sécurité est confiée à l'OTAN sous direction américaine et l'économie est laissée à l'Union européenne, qui est en train de se construire. Donc, d'emblée, je dirais, l'Europe se crée avec une personnalité au niveau du citoyen, schizophrénique. La sécurité d'un côté, l'économie de l'autre. On n'arrive pas à faire le lien entre les deux et à se trouver une communauté de destin. La deuxième chose, je crois, qui est problématique, c'est que dans la division du travail pour la partie économique, on dit l'Europe va s'occuper de nourrir la croissance en unifiant le marché. Mais elle ne va pas s'occuper de redistribuer les revenus. Ça, c'est l'affaire des États. Et il y a un mur, une muraille de Chine entre l'Europe qui fait un marché avec les quatre grandes libertés de circulation et les États qui gèrent la répartition des fruits de la croissance. Parce qu'à l'époque, c'est de la croissance et pendant longtemps, ce sera de la croissance. Et puis, on se rend compte que à mesure que le temps s'écoule, d'abord cette Europe devient de plus en plus diversifiée et hétérogène à cause de l'élargissement. On se rend compte que la concurrence fiscale, sociale, à l'intérieur de cette Europe hétérogène, qui n'a pas de normes communes dans ces matières clés pour une redistribution effective, c'est-à-dire la protection sociale, la protection fiscale, l'absence de capacité européenne effective, puisque tout se décide à l'unanimité, c'est-à-dire rien ne se décide dans ces deux domaines, les systèmes nationaux sont mis en concurrence. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de modèle social européen, il y a des modèles sociaux nationaux mis en concurrence et en concurrence vers le bas. Et maintenant que la crise est là, on le voit encore plus clairement que jamais. Troisième chose, c'est le déficit de gouvernance de l'euro. Je fais souvent l'image, l'euro, c'est un unijambiste, c'est un quadrupède unijambiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire marcher l'euro, il faut une banque centrale qui pratique une politique monétaire, on l'a, un budget centralisé qui fait de la répartition entre les pays performants et les autres, on ne l'a pas, on a remplacé ça, je vais venir, par une discipline fiscale, c'est pas pareil. Il n'y aura pas avant 2022 une union bancaire qui fait que le risque bancaire, qui pour le moment est plus sérieux que le risque souverain, est éliminé. Et quatrièmement, je vous le dis, il n'y a pas d'harmonisation fiscale et sociale. Bien, cette Europe-là, qui n'a que la fonction bancaire et qui aura dans 8 ans une union bancaire, ne peut pas fonctionner. Alors elle fonctionne sur un compromis inspiré par l'Allemagne qui a dit, écoutez, on ne veut pas faire un budget centralisé, mais on va le remplacer par un schéma d'assurance pour les pays qui ont du mal à se financer sur les marchés financiers et par ailleurs, on va imposer à tous ces pays une discipline, ne pas dépasser 3% du déficit, de déficit par rapport au PIB, revenir aux 60% de la dette par rapport au PIB, et cette politique se dit imposée par l'Allemagne. L'Allemagne fait ça, je crois, de bonne foi. On ne va pas perdre son temps à dire que l'Allemagne cherche un leadership. L'Allemagne fait ce qu'elle peut, du mieux qu'elle peut. Elle se trompe souvent. Ça lui convient. Elle croit que ça convient à tout le monde. C'est ça l'erreur fondamentale de l'Allemagne. Mais le fait est que le deal allemand a permis de sauver l'euro, mais il enfonce l'Europe dans la déflation. Ça, c'est clair. Donc, quelque part, on a maintenant devant nous une nouvelle décennie perdue où il y aura très peu de croissance, pas de résorption du chômage, sauf à recourir à des très bas salaires, à réduire éventuellement le temps de travail, mais avec perte de salaire bien évidemment, à trouver toutes sortes de moyens, d'expédients. pour avoir moins de chômage dans un contexte où il n'y a plus de croissance. Alors, cette Europe-là, évidemment, n'enthousiasme personne. Elle crée de l'inquiétude et on sent bien surtout qu'elle n'utilise pas son potentiel. Je dis un dernier mot de l'impuissance de l'Europe, j'y ai fait allusion. C'est lié à ce dont je viens de parler. Une Europe sans capacité d'agir sur la scène internationale, alors qu'on n'imagine pas sortir de la crise sans un grand effort de coopération avec les autres pays, une Europe qui n'est pas capable de stabiliser son voisinage, une Europe qui n'est pas capable de parler d'une seule voix à Poutine, d'une seule voix aux Chinois, d'une seule voix aux Américains, vraiment, quelle est l'utilité de cette Europe-là? Et pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à le faire? Pour trois raisons. Elle n'a pas de projet pour l'ensemble de l'Europe. C'est extraordinaire ce que je dis, mais c'est vrai. L'Europe n'a pas un projet sur le long terme, de dire voilà à quoi je voudrais que ressemble l'Europe. Il n'y a pas de consensus là-dessus en Europe. Deuxièmement, on n'a pas de défense commune. Forcément, on dépend des Américains. Les Américains ne font rien gratuitement. Ça nous coûte très cher la défense américaine, la défense américaine. Et la troisième chose, c'est que l'Europe décide à l'unanimité, c'est-à-dire elle ne décide rien. Et du coup, elle est paralysée, sa politique étrangère est purement virtuelle. Alors, c'est tout ça qui manque à l'Europe aujourd'hui. C'est ça qu'il faut remettre sur le chantier. C'est pour ça qu'il faut mobiliser les citoyens. Quelque part, les citoyens voudraient que les élites le fassent pour leur compte. Mais les élites ne répondent plus présentes. Où sont-elles? Je veux dire, elles se sont fourvoyées ou parfois, elles se sont, je dirais, avantagées, privilégiées aux dépens de l'ensemble de la population. C'est comme ça que les gens vivent la réalité de l'Europe aujourd'hui et ils n'ont pas tort. Donc nous sommes maintenant à une croisée des chemins. Il va falloir remettre tout ça en chantier, mobiliser l'opinion. Il y a deux voies possibles. Il y a la voie sage, des petits pas. Ça va prendre longtemps. La crise va se perpétuer. Les gens vont devenir de plus en plus impatients, de plus en plus sceptiques, de plus en plus agressifs peut-être, et on risque des accidents, c'est-à-dire un pays qui décroche, pour une raison ou pour une autre, qui peut être politique. Un pays comme la France est capable de ça. Pensez à mai 68. Il y a un seul pays en Europe où mai 68 était possible, c'est la France. La France est une nation politique. C'est une différence radicale avec les autres. Elle est capable d'avoir ces mouvements d'humeur un peu suicidaires, mais parfois aussi qui peuvent amorcer quelque chose de plus ample et de plus ambitieux qui est nécessaire. L'autre voie, ce serait évidemment de mettre en chantier une réforme de l'Europe, de le faire à froid, avec un projet de constitution européenne qui redonnerait une cohérence à l'eurozone, parce qu'il faut partir du noyau. Ça ne sert à rien d'imaginer un avenir grandiose pour une Europe à 28 qui sera bientôt à 30. Cette voie-là, à mon sens, est pour le moment une voie d'attente. C'est seulement avec un noyau qu'on peut avancer. Le noyau, c'est l'eurozone. Il faut doubler l'eurozone avec toutes les politiques dont j'ai parlé, le budget, l'union bancaire, l'harmonisation fiscale. Il faut aussi que l'eurozone soit le noyau d'une Europe de la défense. Vous ne pouvez plus poursuivre dans la dichotomie, sécurité, économie, c'est plus possible. Il faut réunifier l'Europe et il faut que ce noyau porte l'Europe face au monde. Et je crois que c'est jouable, c'est tout à fait jouable. Ça demande d'abord un travail d'explication et c'est ce qu'on fait un peu ici. On va essayer de créer un intérêt. Si, ça va prendre du temps, il y aura des ratés, mais il ne faut pas se décourager. Il faut d'abord faire, oublier tous nos préjugés, tous nos rêves, toutes nos illusions, et il faut s'attaquer au réel tel qu'il est, mais c'est une tâche magnifique, et je suis sûr que c'est une tâche qui peut mobiliser, si elle est bien expliquée, toute la nouvelle génération qui ne demande que ça, et qui enrage d'être confinée, comme aujourd'hui, dans un certain relativisme, aquabonisme, ou toutes sortes de choses en isme pas très drôles. La jeunesse, elle est éternelle, elle a de la vigueur, de l'ambition, et il suffit d'allumer le feu, c'est tout. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Pierre Defrayne, de nous avoir communiqué votre feu, votre foi dans cette Europe, et de nous avoir aussi aidé à comprendre ce qui se passait, les enjeux, nous avoir expliqué pourquoi l'Europe qui a tant mobilisé, suscité d'espoir, ne répond pas aux attentes, en nous mettant bien en lumière les trois crises que vous repérez, cette crise systémique du capitalisme occidental, cette crise de la gouvernabilité européenne et cette crise de l'impuissance dans le monde. Et vous avez ouvert à la fin de votre propos quand même un certain nombre de pistes sur lesquelles nous aurons sûrement l'occasion de revenir tout à l'heure pour précisément se réapproprier l'Europe à notre niveau. Sans plus attendre, eh bien, je laisse la parole à Denis Clerc.
Merci. D'abord, je voudrais remercier Pierre Defrayne de ses propos à la fois réalistes et toniques, en particulier sa fin, et j'irai un peu sur les mêmes pistes que lui, mais d'une autre manière. Si on s'interroge sur l'Europe et qu'on pose la question « l'Europe est-elle sociale ?», la réponse est évidemment, aux yeux de 99%, sinon 100% des gens, non. Elle est aujourd'hui plutôt une marâtre qui punit, et en particulier les pays qui ont dû avoir recours à l'aide monétaire et budgétaire auprès pour arriver à sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvaient. Je pense évidemment à la Grèce, qui a subi une cure d'austérité indigne, même si le pays avait triché, et ses dirigeants avaient triché, mais peut-être pas la sanction a touché l'ensemble des Grecs, et dont la plupart n'avaient en rien une responsabilité dans cet état de fait. Et puis, je pense aussi à ce qui se passe en Espagne, au Portugal, à Chypre, en Irlande, où partout on voit la pauvreté augmenter. Pierre Defrayne l'a dit tout à l'heure. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, la sanction, le désamour envers l'Europe paraît s'abreuver à des sources évidentes. L'Europe n'est pas à la hauteur. L'Europe aurait en quelque sorte trahi. Tel n'est pas mon propos. Je vais essayer de, en deux points un peu différents, je vais essayer d'expliquer en quoi je continue de croire à la capacité européenne à se forger un avenir, peut-être en précisant son projet, mais à se forger un avenir qui ne soit pas un avenir libéral au sens économique du terme, c'est-à-dire où la concurrence est la règle généralisée et où le plus fort l'emporte sur les plus faibles. Et pour ça, je voudrais partir de la création de l'Europe. Cette création, Pierre l'a dit tout à l'heure, doit sans doute beaucoup au coup de pouce américain du plan Marshall, mais dès 1950, on va dire, sous l'impulsion de Jean Monnet, il y a eu des tentatives, et des tentatives réussies. On pense à la CECA, 1947 même, la CECA, on pense ensuite à Euratom, et un échec majeur, quand on a voulu s'attaquer aux politiques. C'est l'échec de Pierre Mendès-France et de l'Europe de la défense, hein, la communauté européenne de défense, a été refusée par l'opinion publique. Pourquoi a-t-elle été refusée? Tout simplement parce que l'opinion publique n'était pas mûre pour accepter l'idée d'une Europe fédérale. Or, confier la défense de l'Europe, non pas aux États-Unis, pays vainqueur et dominant, mais à un ensemble européen, c'était la confier, c'était pour la France renoncer à sa défense propre au bénéfice d'une défense européenne, en totalité ou en partie. Et ça, c'était inacceptable pour la grande majorité de l'opinion publique qui le refusait. Quand bien même cette défense européenne aurait eu le désir, la volonté de se substituer à la défense américaine qui n'était pas meilleure. Tout simplement, les peuples européens qui composaient à ce moment-là le cœur de l'Europe, les 6 pays initiaux du marché commun, comme on disait en 1956, ces pays-là n'étaient pas mûrs pour accepter que l'Europe soit une construction fédérale dans laquelle une partie des pouvoirs serait conférée à une institution européenne. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça a été Jean Monnet, sa préscience en quelque sorte, loin de s'obstiner à vouloir construire une Europe politique, il s'est dit, ben faisons l'Europe des affaires. Et on va tisser à travers les affaires des solidarités de fait, concurrentielles certes, mais non pas ennemies. On va passer de la notion d'adversaire à la notion de concurrent. Et ce passage-là, en créant des liens de type économique, utilitariste, avec des intérêts contradictoires, mais néanmoins un désir de réussite économique commun à tous, eh bien, ce projet-là, il a marché. C'est ce que j'appelle, moi, les effets collatéraux. Souvent, le terme, on dit victime collatérale. J'aimerais que vous compreniez bien que la création du marché commun en 1956, par le traité de Rome, a eu des effets collatéraux extrêmement positifs, parce qu'ils ont créé ce sentiment d'appartenance commune à un espace, à l'époque limité à 6, qui s'est progressivement et sans doute trop rapidement élargi, mais ce n'était pas gagné d'avance. Le sentiment européen est né de la victoire économique, en quelque sorte, de la réussite plutôt que de la victoire, de la réussite économique de tous. On est passé d'une économie dans laquelle on craignait une espèce de jeu à somme nulle, c'est-à-dire ce qui serait gagné par l'un serait perdu par l'autre, à un jeu à somme positive, tout le monde gagnait. Et tout le monde a gagné. Et c'est la naissance du sentiment européen, c'est l'effet collatéral, ça a été la naissance du sentiment européen. Bien, de la même manière, la crise actuelle, qui n'est pas digne pour l'Europe, enfin, je veux dire, la gouvernance de l'Europe n'a pas été capable de trouver des politiques économiques permettant d'éviter de punir les peuples tout en faisant respecter un minimum de discipline aux États. Ce mauvais comportement européen, cet échec européen, va avoir un effet collatéral dont j'espère qu'il sera, dont je suis à peu près certain aujourd'hui, ça paraît curieux, qu'il va être positif de la même manière que la création du traité de Rome en 1956 a eu des effets positifs dans un domaine où on ne l'attendait pas, à savoir la paix et la solidarité entre les peuples. Eh bien, la crise de l'euro, parce que c'est moins d'une crise européenne qu'il faut parler aujourd'hui que de la crise de la monnaie européenne, en partie résolue, mais en partie seulement, cette crise de l'euro peut avoir des effets collatéraux bénéfiques. Pourquoi ? Ben, ça va être ma deuxième partie d'exposé et je vais revenir quelques instants sur cette crise de l'euro. Pour tout le monde, et sans doute pour la majorité d'entre vous, c'est une crise des dettes publiques. J'allais dire, c'est en partie vrai, mais c'est pas totalement vrai et c'est peut-être même pas l'essentiel. L'essentiel est ailleurs. L'euro a été décidé en 93, mise en forme, enfin a démarré en 98 avec la monnaie bancaire et en 2000 avec les billets, donc la monnaie fiduciaire. Et entre 2000, date officielle du lancement de l'euro à travers les billets et la création donc de la BCE, entre 2000 et 2012, enfin entre 2000 et 2008, pardon, le déclenchement de la crise, on a vu des pays avec des rythmes d'inflation extrêmement différents, des pays membres de la zone euro avec des rythmes d'inflation extrêmement différents. Pour parler bref, en Grèce, plus 40% d'inflation durant cette période d'une dizaine d'années, 98 ou 2000 selon qu'on fait commencer la zone euro en l'une ou l'autre année, tandis que l'Espagne était à en gros 30%, l'Irlande également 30%, la France et l'Allemagne 20%. L'Allemagne un tout petit peu moins et la France un tout petit peu plus, mais c'est pas grave, on est dans les ordres de grandeur. Or, quand des pays ont une monnaie commune et que les prix de l'un doublent par rapport au prix de l'autre, mettons la Grèce au regard de la France ou de l'Allemagne, ces prix relatifs ont doublé, alors que, qu'est-ce qui se passe ? Ce pays perd de la compétitivité. Ils perdent la compétitivité et du même coup, exactement comme à l'intérieur d'un pays national, enfin d'un État national, les zones les plus dynamiques voient refluer vers elles les activités économiques des zones les moins dynamiques, parce que ces zones les moins dynamiques sont en quelque sorte pénalisées. Dans le cas de l'Europe, de la zone euro, c'était l'inflation qui pénalisait. Dans le cas national, ça n'aurait pas été l'inflation, puisqu'il y a un seul taux d'inflation à l'intérieur d'un État national. Donc, ce que l'on a vu, c'est des pays perdre progressivement pied. Ça, c'est la première conséquence. Mais il y a une deuxième conséquence que l'opinion publique n'a pas vue du tout et qui a été rarement analysée, sauf par les économistes, qui est que grâce à cette inflation, eh bien, un certain nombre de pays inflationnistes, je pense à la Grèce bien sûr, mais également à l'Espagne ou à l'Irlande, ont eu des avantages pour emprunter. Lorsque vous avez un taux d'intérêt qui est unique sur l'ensemble de la zone euro, mettons de 2%, puis que dans certains pays le taux d'inflation est 2%, et que dans d'autres il est de 3,5% voire 4%, presque le cas de la Grèce, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui en Grèce empruntent à 2% voient leur dette s'alléger en pouvoir d'achat, puisque le pouvoir d'achat de la monnaie perd 4% par an, donc ils espèrent que ce sera compensé au niveau des salaires et des revenus, et du même coup, leurs revenus vont augmenter de 4%, alors que leur taux d'emprunt ne leur coûte que 2% par an. D'une certaine manière, ça vaut la peine de s'endetter dans ces conditions-là, puisque on y gagne. On paye en coût d'emprunt moins que le coût de la vie ne progresse. J'espère que tout le monde a compris ça. Et donc, grâce à ça, on a vu un certain nombre de pays connaître un endettement fantastique. En Grèce, ça a été l'endettement public. En gros, la dette publique grecque, les Grecs avaient triché là-dessus quand ils sont rentrés dans l'euro, ils sont rentrés en 2000, hein, les Grecs. Quand ils sont rentrés dans la zone euro, ils ont prétendu qu'ils étaient à 60% de dette publique. En réalité, ils étaient déjà aux alentours de 100% de dette publique. Et c'était une banque américaine, Lehman Brothers en l'occurrence, qui les avait aidés à camoufler une partie des emprunts publics et de ne pas les compter dans les déclarations officielles à Eurostat. Bon, donc en Grèce, ça a été l'emprunt public, mais en Espagne et en Irlande, ça a été l'emprunt privé. Les candidats à l'acquisition de logements se sont endettés à 2%, alors que le coût de la vie chez eux était de 3%. Ils avaient un taux d'intérêt négatif, en quelque sorte. Et en prime, au fond, l'inflation effaçait chaque année 1% de leur dette. Sur 20 ans, c'est loin d'être négligeable. Et donc, une espèce de boom de l'immobilier a saisi ces deux pays. Et à un moment donné, en Espagne, on construisait jusqu'à 800 000 logements par an, dans un pays qui, 40 millions d'habitants, alors qu'en France, en gros, dans les bonnes années, on fait 400 000, 450 000 logements par an pour 60 millions d'habitants, 65 maintenant. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu un boom de l'immobilier considérable. En Irlande, ce n'était pas seulement un boom de l'immobilier, c'était un boom des entreprises. Et cette bulle financière, elle a fini par exploser. Elle a explosé à la faveur de la crise américaine, des subprimes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'est pas là pour raconter tout ça. Mais on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait un surendettement excessif, tantôt public, tantôt privé. Et le surendettement privé, il venait des banques, car c'était les banques qui, brutalement, se sont rendues compte, au moment où la bulle financière a explosé, qu'une partie de leurs prêts, des prêts qu'elles avaient consentis à des emprunteurs, ne seraient jamais remboursés ou seulement partiellement remboursés. Si vous saisissez une maison qui a perdu 20% de sa valeur, eh bien vous récupérerez au mieux 80% de la créance. Et quand il s'agit d'entreprises qui ont fermé leurs portes parce qu'elles ne pouvaient plus vivre correctement, eh bien on perd toute la créance. Et donc les banques irlandaises, comme les banques espagnoles, comme les banques portugaises et comme en partie les banques italiennes, et aujourd'hui les banques chypriotes, se sont retrouvées en très grande difficulté, avec une masse d'emprunts insolvables, enfin non remboursables, qui risquaient de mettre leur existence même en péril. Ce qui a entraîné en Irlande la nationalisation de toutes les banques par l'État, et l'État irlandais, qui était endetté à hauteur d'à peu près 40% de son produit intérieur brut, est passé à 120%, parce qu'il a fallu financer cette nationalisation par des dettes publiques, l'État s'est endetté pour pouvoir racheter ses banques. Idem en Grande-Bretagne, mais je n'en parlerai pas en Grande-Bretagne puisqu'elle ne fait pas partie de la zone euro. Idem en Espagne, où là, il a fallu emprunter aux alentours de 60 milliards pour financer... Enfin, l'État a emprunté 60 milliards, à peu près 30% du produit intérieur brut espagnol, même un peu plus, presque 40% du produit intérieur brut espagnol, pour sauver ses banques. Des caisses d'épargne, très souvent d'ailleurs, entre parenthèses, de l'économie sociale et solidaire, comme on dit chez nous, qui avait bénéficié au maximum de la dette. Et donc, ce que je veux expliquer là, c'est que la solution à cette crise d'endettement, c'était à la fois une solution monétaire que la Banque centrale accepte de prêter si, d'abord aux banques menacées de faillite. C'est ce qu'on appelle la situation du prêteur en dernier ressort. Quand une banque menace de faire faillite, les effets, cette fois-ci collatéraux, de la faillite risquent d'être tellement graves qu'il vaut mieux que la sauver par une intervention monétaire, un prêt de la banque centrale, même si la banque centrale ne récupère pas la totalité de son prêt. De toute façon, pour elle, ce n'est pas très grave. Enfin, éventuellement, j'y reviendrai là-dessus. Mais oui, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il fallait organiser un transfert budgétaire et pas simplement monétaire. Le transfert monétaire, l'Allemagne a freiné des cas de fer en disant il ne faut pas faire de transfert monétaire. En gros, il ne faut pas faire tourner la planche à billets pour sauver les banques grecques ou les banques espagnoles ou l'État français. Il faut que les créanciers payent. Et c'était la politique allemande. Il faut que ceux qui ont créé la bulle immobilière ou la bulle de crédit public soit sanctionné. Et ils ont été sanctionnés, effectivement, puisque, in fine, il a fallu que la Grèce obtienne un effacement de sa dette d'emprunt public d'environ 100 milliards. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Toujours est-il que cette action monétaire, elle a eu lieu, mais à retardement. Et on retrouve la question de la gouvernabilité. Sous la pression allemande notamment, les Allemandes ayant une peur panique de l'inflation, il n'était pas question que la Banque centrale européenne fasse tourner la planche à billets, surtout au bénéfice d'États qui étaient fautifs, d'États grecs notamment. Donc, on y est arrivé au dernier moment, le jour où la Banque centrale européenne a dit « Nous allons racheter tous les titres publics dont personne ne veut aujourd'hui parce qu'on soupçonne que les États vont être incapables de les rembourser ». Ce jour-là, la crise de la zone euro a été terminée. Mais il aurait fallu, pour éviter la punition, à savoir ce qu'on appelle souvent la dévaluation interne, c'est-à-dire faire baisser les prix en Grèce pour qu'ils retrouvent la compétitivité et donc faire baisser les salaires et faire baisser les pensions et du coup engendrer, ce que Pierre a très bien expliqué tout à l'heure, une déflation, un mouvement déflationniste, c'est-à-dire moins engendre moins, moins de revenus engendre moins de dépenses, etc., etc., il aurait fallu organiser un transfert budgétaire. Sauf que la monnaie est désormais fédérale, en quelque sorte, mais les budgets restent nationaux. Et qu'on ne pouvait pas, hors transgression du traité, imposer aux États de se montrer solidaires. C'est-à-dire d'accepter qu'une partie de leurs impôts serve à financer des gens, des États ou des banques qui étaient trop endettées pour s'en sortir. Et le résultat, c'est que, imaginez un peu que nous ayons en France deux départements, les Hauts-de-Seine avec un taux de chômage de 8%, les Pyrénées-Orientales avec un taux de chômage de 17%, disons le double. Et qu'on dise, eh bien, les chômeurs des Pyrénées-Orientales vont être pénalisés, on va baisser leurs indemnités d'assurance chômage ou on va augmenter les cotisations d'assurance chômage parce qu'il y en a trop de chômeurs. Personne ne comprendrait. Ce qui se passe dans un pays comme la France, c'est que la masse globale des cotisations sert à transférer en Pyrénées-Orientales ce qui est collecté dans les Hauts-de-Seine. Enfin, une partie de ce qui est collecté dans les Hauts-de-Seine. C'est ça le fédéralisme budgétaire. C'est l'idée qu'on a fait une caisse commune et que chacun a droit à cette caisse commune en proportion de ses besoins. On fixe des règles pour déterminer les besoins, mais une fois qu'on les a fixés, eh bien, chacun prend en fonction de ses besoins et non pas en fonction de ses revenus. C'était exactement ça qu'il aurait fallu faire et que nous n'avons pas été capables de faire. Et je reviens à ce que je voulais dire, de la même manière que le traité de Rome a permis de rétablir par un effet collatéral la paix et la solidarité entre des peuples que tout faisait haïr jusqu'à présent, ou tout poussait à se haïr jusqu'à présent, rappelez-vous les guerres fratricides entre la France et l'Allemagne notamment, eh bien, de la même manière, aujourd'hui, nous savons que la zone euro n'est viable que si nous faisons du fédéralisme budgétaire. Et si nous faisons du fédéralisme budgétaire, ce n'est pas par idéalisme, tous frères, on chante, etc., etc. Pas du tout, c'est par nécessité. Si on veut sauvegarder le modèle ou les modèles de protection sociale européenne, eh bien, il va falloir en passer par le fédéralisme budgétaire. Mettre en commun des choses qu'on n'avait jamais imaginé de mettre en commun. Abandonner à l'Europe une part croissante de notre souveraineté. Et cette crise, soit elle aboutira à un refus, une espèce de blocage sur ce point, et à ce moment-là, je ne donne pas cher de la peau de l'Europe, et de la zone euro en particulier. Je crains même qu'à l'intérieur du cœur de la zone euro, à savoir l'alliance franco-allemande, eh bien, il y a un antagonisme qui revive. Hein, on voit un certain nombre d'expressions publiques aujourd'hui vis-à-vis de l'Allemagne qui ne sentent pas bon. Il faut dire les choses clairement. On peut ne pas être d'accord avec les Allemands, mais ce n'est pas nécessaire d'en rajouter en rappelant des souvenirs qui sont encore douloureux. Ou bien, deuxième possibilité, et je crois que c'est cette deuxième possibilité qui va l'emporter, les Européens, par devoir, par obligation, pour sauvegarder cette construction européenne, vont, un, mettre en commun, au moins au sein de la zone euro, une part croissante de leur budget et prendre des décisions communes. Ça a déjà commencé avec ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire l'interdiction d'avoir un déficit structurel en période normale, un déficit budgétaire structurel en période normale, mais j'insiste pas là-dessus. Mais ça se fera sous la forme d'impôts européens qui serviront à financer une cagnotte. Au fond, ce que l'union bancaire a fait ou promet de faire entre les banques, les États vont être contraints de le faire entre eux au niveau budgétaire. Parce que les États seuls ont une force de frappe suffisante pour réanimer l'économie européenne, ou en tout cas l'économie de la zone euro. Voilà, c'est ma conviction, et c'est sur cette espèce de foi, mais qui est une foi rationnelle. L'intérêt nous y pousse, que je pense que la construction européenne, demain, peut rebondir et trouver un nouveau souffle, au moins au sein de la zone euro.
Merci beaucoup, Denis Clerc. Merci de nous avoir partagé votre vision de l'Europe, de continuer ainsi de croire à cette capacité européenne de se forger un avenir qui, nous l'avons bien entendu, ne soit pas libéral. Et vous nous avez aidé, je crois, à bien comprendre aussi la construction européenne en montrant que les rendez-vous manqués avec l'Europe politique ont pu conduire à faire émerger une Europe économique. Et donc aujourd'hui, eh bien, la crise de l'euro que vous avez expliquer la crise de l'endettement pouvait avoir aussi, pensez-vous, des effets bénéfiques pour l'Europe si on sait en tirer toutes les leçons, par devoir, par obligation, notamment en faisant du fédéralisme budgétaire. Alors, il peut y avoir parmi nous différentes relectures, différentes convictions sur l'appréciation de la situation de l'Europe aujourd'hui. C'est le temps qui s'ouvre maintenant, le temps des échanges entre nous, le temps des questions, des réactions, des convictions. Comme d'habitude, un micro va se balader. On va récupérer quelques questions. Voilà, je vois déjà une main qui se lève tout en haut. Voilà, donc on va prendre deux ou trois questions avant de donner la parole à nos intervenants. Voilà. Redonnez le micro à la dame pour qu'elle le rouvre. Oui, tout va bien, ça va s'arranger. Sûrement. Ne cassez pas votre voix, c'est pas la peine.
Je peux parler fort bon. Au nom d'un groupe des semaines sociales prenant travail sur les élections européennes de 2020. Mais nous avons trois choses à vous dire. D'abord, l'Europe, disons que les élites appelle élite ou ceux qu'on désigne élite en Europe en sont convaincus. Le problème n'est pas de se convaincre entre nous qu'il faut faire l'Europe ou continuer, c'est ceux qui sont eurosceptiques et europhobes. Comment les convaincre? Ce n'est pas en rappelant que les anciens ancêtres étaient très beaux qu'on y arrivera. On peut, à mon avis, ne le faire qu'en proposant un projet renouvelé. J'en viens donc à mon deuxième item. Ce projet renouvelé doit tenir compte, à la différence de 1950, de la mondialisation. Quel est le rôle de l'Europe dans la mondialisation? À notre avis, nous avons une réponse. Le rôle ne peut être, et c'est là où les chrétiens doivent s'engager, ne peut être que d'adoucir la mondialisation qui est perçue, sinon être, qui est au moins perçue comme trop brutale par la majorité des peuples de la planète. Troisième observation, nous sommes actuellement l'Europe menacée de l'intérieur par un certain parti, surtout en France, qui veut la démolir, et de l'extérieur par un certain pouvoir impérial qui renaît. Il y a alliance objective actuellement entre ces deux forces. Que faisons-nous pour empêcher ces deux forces de détruire l'Europe? Je ne partage pas du tout ce que M. Blair a dit. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que la situation est beaucoup plus grave et politiquement que les affaires de sous même.
Si ces affaires de sous. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on a bien entendu, parce que vous avez beaucoup de voix, on a bien entendu votre... Voilà, mais on va arranger le micro, on va arranger le micro, voilà. Merci. Voilà, sinon on va continuer sans micro. Voilà, le micro marche. Alors on va prendre une autre question de l'autre côté, voilà. Voilà, vous levez le, merci.
Oui, je voudrais un point d'information, s'il vous plaît.
Parlez bien dans le micro.
Oui, on n'a pas alors évoqué le projet de traité transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Or, c'est un point qui me paraît très important. Et en particulier, au sujet de la création d'un tribunal qui serait supranational et qui pourrait arbitrer des conflits économiques et commerciaux très importants. Quel est votre point de vue sur ces problèmes? Merci d'avance.
Merci, un point bien précis mais important. Est-ce qu'il y a une troisième intervention? Ah, elle est juste devant, c'est l'intervention qui nous vient de Bordeaux, relayée.
Une question sur comment mettre plus de démocratie dans les institutions et en particulier comment faire en sorte que la Commission soit mieux encadrée par le Parlement.
Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions dans l'immédiat, on peut peut-être partir là-dessus. Il y a peut-être la première et la troisième question qui peuvent se rejoindre sur le renouvellement du projet. C'est bien le thème de ce soir, comment se réapproprier l'Europe, voilà, et notamment dans cette période de mondialisation, ça touche sûrement à la question de la démocratie aussi dans les institutions, peut-être Pierre Defraigne.
Oui, prends acte de ce qui a été dit, qui me paraît marqué du coin du bon sens à beaucoup d'égards, mais pour moi le problème n'est pas russe. Marine Le Pen et Poutine sont des acteurs de deuxième rang, pas de ça qu'il s'agit. Le monde change à cause de la montée en puissance de la Chine, que je ne vis pas comme une menace, je m'empresse de le dire, je n'ai pas peur d'une Chine forte, mais j'ai peur d'une Europe faible. Ça, c'est le vrai problème. Pourquoi? Parce que ça change toute la donne. Nous avons maintenant à partager le pouvoir avec la Chine. La Chine sera bientôt la première économie du monde. Et pour la première fois, nous aurons une économie du monde qui n'est pas la plus riche. Ça reste aussi un pays en voie de développement. Situation extraordinairement paradoxale. C'est une région, l'Asie, où la Chine fait des émules, mais en même temps où des tensions apparaissent. Tensions sur des limites territoriales sur des modèles. C'est une région du monde qui gagne en poids et qui est en même temps plus instable que l'ordre précédent qui était dominé par les puissances occidentales. Pour moi, le vrai défi du monde et la vraie raison d'être de l'Europe aujourd'hui, c'est la montée en puissance de la Chine. Nous sommes la seule possibilité que le monde ne se redécoupe pas en deux blocs, le G2, comme on l'appelle parfois, la Chine d'un côté et l'Amérique de l'autre. L'Europe peut être le tiers qui fait que ce monde n'est pas un monde d'affrontement, mais un monde de coopération, c'est-à-dire que ce ne soit pas des rapports de force stratégiques, mais qu'il soit fondé sur la règle de droit, sur le multilatéralisme, sur l'OMC, sur la réforme des institutions de Bretton Woods, sur un accord climat. L'Europe a cette capacité si elle le veut, mais elle ne peut le vouloir que si elle défend un modèle, si elle a un consensus chez elle sur un modèle. Et ça, c'est l'autre aspect de la question. Nous ne pouvons exister au dehors que si nous projetons nos 500 millions d'habitants, c'est plus que l'Amérique, notre PIB qui est de la taille du PIB américain, dans un projet pour le monde qui est nourri par l'originalité de notre modèle. La force de l'Europe, ce n'est pas le grand marché. C'est la manière dont nous organisons à la fois la production et la distribution de la richesse. Parce que quand nous faisons ça correctement, c'est-à-dire en conjuguant efficacité et équité, nous donnons au reste du monde une référence pour construire leur propre modernisation. Moi, je vais souvent en Chine, je suis frappé de l'intérêt que la Chine a pour l'Europe, si elle réussit. Évidemment, maintenant, ils sont inquiets comme il n'est pas permis, parce qu'ils se demandent si on va arriver à trouver la résolution du problème dont parlait Denis Clerc à propos de l'euro. Donc ça, c'est la réflexion sur laquelle moi je voudrais insister, ne pas se tromper, ne pas prendre les choses importantes, difficiles que nous avons à gérer dans notre voisinage ou à l'intérieur de nos pays pour des faits dominants alors que la perspective importante, elle est ailleurs. Et c'est vraiment celle-là qui justifie notre effort. La question de la démocratisation des institutions, franchement, je crois que c'est un faux problème. L'Europe fonctionne, hélas, de manière parfaitement démocratique si on s'en tient aux institutions, aux formes, aux procédures. Personne n'a à redire le caractère de la légalité démocratique. Le vrai problème, c'est la légitimité démocratique, parce qu'il n'y a pas de démos européen. Il n'y a pas une population européenne qui partage autre chose que ce dont a parlé Denis Clerc. Il parle d'un sentiment européen. Mais un sentiment européen, ce n'est pas assez pour unir les gens. Un sentiment européen s'est fondé sur quelque chose de très fin, de très superficiel, qui est le marché. Ce qu'il faut créer pour unir les gens, pour créer un démos européen, c'est-à-dire une opinion publique transnationale en Europe, c'est la perception d'une communauté de destin. C'est vraiment ça que nous devons créer en Europe. Se dire, voilà, nous avons des identités nationales différentes par des raisons historiques, culturelles, etc. Mais au nom de la raison, nous nous construisons un projet commun pour faire face à ces défis du monde et en même temps pour vivre dans la prospérité, la sobriété et le partage. Alors je crois qu'avec ça, on arrive à mobiliser notamment la jeunesse. Je pense que c'est ça que nous devons viser, c'est faire souffler l'esprit à l'intérieur des institutions. Il faut créer un démos européen et la crise doit nous aider. Et si elle est bien gérée et si nos rapports avec la Chine, avec les États-Unis, avec la Russie sont bien gérés, nous allons créer ce sentiment. Et à ce moment-là, la question de la démocratie va se régler toute seule. Mais si on ne le fait pas, il y aura un blocage et on va tourner en rond.
Denis Clerc.
Je suis assez d'accord avec la première partie de la réponse de Pierre Defraigne, à savoir que le problème, au moins si on prend un petit peu de vue sur le long terme, le problème majeur aujourd'hui, c'est celui de nos relations avec la Chine et des déséquilibres que le développement accéléré ou la croissance accélérée de la Chine est en train de provoquer sur l'ensemble de la planète. Je vous conseille très fortement la lecture du livre de Jean-Yves Carfentan qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Je ne me rappelle plus le titre exact, mais qui porte exactement sur ce thème-là. La Chine est en train, ses besoins en approvisionnement en ressources non renouvelables ou sa volonté de disposer d'un espace vital non contesté dans quel kilo que ce soit, est en train de devenir un pays dans lequel, avec lequel l'affrontement risque d'être frontal. Et on a des problèmes pour tenter de trouver des formes de compromis avec elle. Jamais on n'a eu autant besoin d'une espèce de gouvernance mondiale à l'échelle des ressources non renouvelables de la planète. C'est bien de ça dont il s'agit. Si on ne parvient pas à trouver des compromis avec les pays aujourd'hui en voie d'émergence, et notamment la Chine et l'Inde, ce qui veut dire qu'il va falloir que nous revoyions fondamentalement notre modèle de croissance, si nous n'y arrivons pas, si nous pensons que ce modèle de croissance va être copié par tous les pays aujourd'hui en émergence, la finalité est évidente, hein. Enfin, la conclusion est évidente. Il n'y en aura pas suffisamment pour tout le monde et on aura des sources de conflits extrêmement fortes et ce sont les plus faibles, notamment en Afrique, qui risquent de payer les pots cassés. Ça s'est déjà vu il y a 5 ans, en 2007 avec 2007-2008 avec la famine qui a refait surface dans une partie des pays africains suite à la flambée des cours alimentaires mondiaux. Bon, donc c'est un vrai problème et aujourd'hui je suis pas géostratège, donc je n'ai pas de solution, mais je pense que ceci étant, l'Ukraine est aussi un problème plus immédiat et je pense que dans ce domaine-là, l'Europe, une fois encore, si vraiment elle prend le parti de l'Ukraine, eh bien elle doit se montrer à la hauteur des attentes. J'insiste sur le fait que l'Europe a une capacité d'attractivité, peut-être moindre aujourd'hui qu'hier, mais relativement forte vis-à-vis des pays qui sont très en deçà de notre niveau de vie. Puisque l'expérience a montré que partout, dans tous les pays qui ont adhéré au moins jusqu'en 2003, tous les pays qui ont adhéré ont connu une accélération de leur croissance économique et une élévation de leur niveau de vie. Des pays comme l'Irlande, dont le niveau de vie par tête était de l'ordre de une moitié à peu près de la moyenne de la communauté économique européenne à l'époque, est arrivé à avoir un niveau de vie de l'ordre de 1,3 fois la moyenne de l'Union européenne. Et on pourrait prendre tous les pays adhérents, y compris la Grèce, l'Espagne, etc. Tous ont adhéré pour cette raison-là. L'Ukraine n'adhérera pas, elle est trop loin, trop éloignée, c'est pas un état de droit, elle est très très loin de pouvoir adhérer, mais elle a besoin d'échapper à la domination russe pour laquelle elle a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Je vous renvoie au livre de Grossman, Valeur et destin, je crois, ou quelque chose dans ce goût-là, qui raconte ça avec beaucoup plus de talent que je ne saurais le faire. Alors, le TAFTA. Donc, le traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, je suis partagé. Je pense que c'est un projet qui n'est pas clair et je n'arrive pas à comprendre que l'Union européenne, les États de l'Union européenne aient donné mandat à la Commission pour négocier, tout comme le Sénat américain a donné mandat à Obama, au président américain, pour négocier, avec une clause dans l'un et l'autre cas express, ne rien, aucune transparence sur sur la négociation. On ne sait pas aujourd'hui, personne ne sait aujourd'hui quels sont les compromis qui ont été arrêtés, quelles sont les questions qui risquent à discuter et quelle est l'ampleur des concessions que l'un et l'autre des deux pays, des deux pays ou des ensembles de pays, est prêt à consentir. Il y a là une façon de priver l'opinion publique de toute information et du même coup de toute capacité de réagir qui m'inquiète. Le deuxième sujet d'inquiétude est à mes yeux moindre c'est le tribunal dont vous avez parlé. C'est effectivement classique dans les relations commerciales que lorsqu'il y a des conflits entre pays, ils ne sont pas réglés par l'un et l'autre des deux pays, ni même par une institution tierce qui aurait un pouvoir institutionnel, mais par un organe spécifique. Dans le cas de l'OMC, c'est l'organe de règlement des différends, qui n'est pas démocratique, qui est souvent composé d'experts trop proches peut-être des multinationales ou trop convaincus du bénéfice que le libre-échange engendre. Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Aux États-Unis même, les parlementaires sont inquiets de voir l'Europe obtenir trop de concessions à son avantage. Et à l'inverse, l'Union européenne, un certain nombre d'ONG et de parlementaires de l'Union européenne sont inquiets de voir les concessions, notamment en matière d'OGM ou en matière de gaz de schiste, par exemple, pour ne prendre que ces deux exemples-là, qui pourraient sortir de la discussion. Mais il est absurde de penser que lorsque le tribunal des différends, je ne me rappelle plus, il y a un sigle américain pour désigner ça, fonctionnera, si l'accord doit être passé, il est absurde de penser que ce tribunal fera le droit à la place des États. On n'a jamais vu ça. Quelle que soit la puissance des multinationales, il est hors de question qu'une multinationale puisse faire plier un État lorsque l'État estimera que l'intérêt national l'emporte ou que l'intérêt européen l'emporte. On n'a jamais vu une entreprise, ou alors il faut remonter à la politique de la canonnière vis-à-vis de l'Égypte ou vis-à-vis de la Tunisie dans les années du 19e siècle pour avoir ce genre de choses. Donc, moi, je ne suis pas trop inquiet sur le fait que ce soit des arbitres privés qui règlent les conflits. Je pense qu'en aucun cas, les décisions qu'ils rendront ne se substitueront aux lois d'un État ou aux règles de l'Union européenne. En revanche, je suis très inquiet sur les compromis qui peuvent être passés et j'aimerais bien que cette clause d'interdiction de diffusion de la nature des discussions aujourd'hui soit levée. L'OMC au moins, donc l'Organisation mondiale du commerce, dans ses négociations multilatérales, avait une règle qui était la publicité des négociations. Donc, ce côté secret ne me paraît pas normal et cache sans doute des enjeux inavouables.
Merci. Un mot, Pierre Defresne, sur le projet de traité transatlantique.
J'étais un des premiers à prendre position sur ce traité et je dois dire, ma position est sans équivoque, ce traité est incompatible avec le projet européen. Entre TAFTA et l'Europe, il faut choisir. Et je crois qu'il n'y a pas à s'embarrasser de détails. On est trop vite entré dans les détails, les sauvegardes, les exemptions, les exceptions, les transitions. Non, il faut dire la chose très simple, qui est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on voit arriver ce traité? Les Anglais l'ont toujours voulu. Mais maintenant, des groupes d'intérêts allemands le veulent. Ça change tout. L'Allemagne est le grand prêteur de l'eurozone et l'Allemagne pèse d'un poids énorme dans le Conseil européen et les autres pays n'ont pas à lui refuser quoi que ce soit. Regardez les chiffres qu'on vous propose. On dit, si tout ce traité extraordinairement complexe, tout fut improbable, se réalise, nous bénéficierons de 0,5% de croissance. S'il y a le moindre blocage, ce ne sera pas 0,5, ce sera 0,3 ou ce sera 0,2. Ce qui est sûr, c'est que ça va profiter à une partie de l'Europe aux dépens d'une autre partie. C'est-à-dire que le traité va aggraver ce qui est le problème clé dont a parlé Denis Clerc tantôt à l'intérieur de la zone euro, la divergence entre le centre et la périphérie. Et nous n'avons pas d'instrument pour gérer ces écarts. Les États-Unis, ils ont un budget fédéral. Si le Nebraska est touché et si la Californie gagne, par le budget fédéral, on règle ça. En Europe, il n'y a pas de mécanisme qui assure la redistribution des gains et des coûts de la libéralisation des échanges. Ça n'existe pas dans le traité. Et je vais plus loin.
Est-ce qu'il on a déjà vu, puisque d'après M. de Gucht, il s'agit de créer un marché intérieur transatlantique. Est-ce qu'on a déjà vu un marché intérieur avec deux monnaies concurrentes, dont une joue systématiquement à la dépréciation, le dollar? Nous n'arrivons pas à manipuler notre monnaie, on subit. Qui ont des politiques énergétiques aussi différentes, surtout maintenant avec l'affaire du gaz de schiste? Est-ce qu'on imagine que l'Europe va aller négocier à 28 contre l'Amérique qui est unie, forte, intégrée, alors que nous, dans l'énergie, les marchés financiers, les télécommunications, les industries d'armement, nous n'avons toujours pas réalisé l'unité du marché? Mais qui va être le 29e État qui va nous mettre d'accord en nous divisant? Mais c'est l'Amérique. Vous savez, l'Europe n'a pas atteint ce niveau de maturité dans son identité qui passe notamment à travers le marché unique, notamment à travers la monnaie unique, mais surtout, j'espère, à travers un modèle pour oser se risquer dans un accord qui, par ailleurs, mine l'autorité de l'OMC et présenté par beaucoup maintenant d'auteurs américains comme une parade à la montée en puissance de la Chine. Vous avez des gens qui écrivent, des gens sérieux, importants, influents aux États-Unis, et vous commencez à en voir en Europe, qui disent « si on se met d'accord américain et européen sur les normes, les standards, les réglementations, eh bien les autres n'auront qu'à s'aligner sur nous ». Voilà la belle réponse au défi de la mondialisation. Si vraiment on veut essayer de reconstituer par cette coalition un hégémonisme occidental qui a du plomb dans l'aile pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, je crois que c'est remonter l'autoroute à ce contresens. Donc moi je pense que l'Europe est en train de perdre son temps. Elle est en train d'énerver, je dirais, son opinion publique avec des choses secondaires qui n'ont pas d'importance par rapport à ce qu'attendent les Européens. Les Européens, ils attendent de la croissance, de l'emploi. Ça ne viendra pas de cet accord. Cet accord est une manœuvre de diversion. Je pense que la seule réponse, c'est de dire non. Tout simplement, vous vous êtes trompé à cause de ce jeu de domino à l'intérieur du Conseil européen. Personne n'ayant quelque chose à refuser à l'Allemagne, et le Parlement, évidemment, disant, ben, si les 28 chefs d'État et de gouvernement, à l'unanimité, trouvent que c'est bien, ben, évidemment, nous aussi. Alors, ils disent, les parlementaires, oui, mais on a le dernier mot, parce que c'est nous qui ratifions selon le traité de Lisbonne. Ça, c'est véritablement se moquer du monde. Ils ont sans doute formellement le dernier mot, mais si les chefs d'État et de gouvernement ont dit que c'était bon, ce sera aussi bon à ce moment-là. Donc, je crois que l'opinion publique doit bien réaliser que ce n'est pas comme ça qu'on va construire le nouvel ordre économique international dont on a besoin. On ne doit pas faire du ganging up. On ne doit pas se rassembler entre puissances anciennes pour prolonger un ordre qui a failli, quelque part, et qui a failli après avoir été une réussite, mais franchement, la crise financière, c'est un mauvais coup que l'Occident a porté au reste du monde. Il n'y a pas que nous qui avons souffert de la crise. La Chine a perdu 4 points de croissance depuis cette crise. Donc, elle cherche une parade, et les autres pays pareil, mais ne venons plus avec l'idée que c'est nous qui allons dire au reste du monde comment les choses vont se passer. Non, il faut accepter qu'on doit maintenant négocier. Et que ça va être difficile, ça va être très très difficile, raison de plus pour être unis, raison de plus pour être nous-mêmes. Ça, je crois que c'est la clé de succès.
Merci beaucoup. Nous reprenons un tour de questions ou de convictions. Oui, au milieu.
Vous avez annoncé tout à l'heure l'arrivée prochaine de 2 nouveaux États dans la communauté européenne. Est-ce que vous pensez que rajouter d'année en année de nouveaux États à cette institution apporte des solutions à tous les problèmes que nous avons évoqués ce soir? Je pense en particulier après la Roumanie, la Hongrie, qui à mon avis n'ont pas apporté grand-chose, comme la Croatie. Est-ce que vous pensez que la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine, etc. sont nécessaires pour que la communauté européenne se développe normalement, j'allais dire? J'ai une Une deuxième question tout à fait indépendante. Il est possible que le groupe General Electric rachète Alstom. C'est possible, ça n'est pas fait. Si cette perspective se confirme, est-ce que les commissaires de Bruxelles auront un mot à donner, un avis à donner, et éventuellement, si leur avis est négatif, est-ce que l'opération ne sera-t-elle pas stoppée? Je vous rappelle le désastre qu'a été la décision de Bruxelles de ne pas autoriser le groupe Péchiné à racheter le groupe Alcan et le groupe Alu-Suisse. Ça a été un désastre économique. Merci.
Merci pour ces questions en pleine actualité. D'autres réactions? Alors, juste derrière, et puis après, nous irons un peu plus haut. Voilà, oui.
Merci de vos explications. Je souhaitais poser une question à Pierre. Vous avez présenté l'Europe comme n'ayant pas de projet. Et si l'Europe devenait forte et puissante, elle aurait sa place dans ce conflit frontal dans le G2, États-Unis, Chine. Et il me manque beaucoup d'entendre parler de l'Afrique. Denis l'a évoqué pour parler des famines qui reviennent en Afrique. Est-ce qu'on peut supposer que ce continent va être un continent sans avenir qui est dédié aux famines, à la pauvreté et à des guerres effrayantes?
Merci.
Juste, on n'en parle pas.
Merci, madame. Monsieur, si vous pouvez le lever, voilà, pour qu'on...
Vous nous dites tous qu'il faut user et relancer l'Europe pour des questions de raison. Est-ce qu'on vend des questions de raison à la jeunesse qui a besoin probablement d'autre chose que de la simple raison?
Merci beaucoup. J'ajouterai ma propre question sur le troisième point que vous avez évoqué, Pierre Defresne, sur cette impuissance de l'Europe dans le monde. Finalement, qu'est-ce qui, selon vous, peut-être d'un point de vue institutionnel, permettrait que l'Europe soit aujourd'hui davantage entendue, respectée, attendue peut-être? Et est-ce que finalement, parfois, ça n'arrange pas un certain nombre de responsables politiques nationaux que l'Europe politique ne puisse pas véritablement prendre sa véritable dimension? Voilà. Alors, on peut peut-être commencer, non pas par ma question, mais par celle de l'adhésion des nouveaux États. Pierre Defresne, peut-être?
Sur l'adhésion des nouveaux États, il est clair que ça va compliquer la donne. Et donc, la solution, elle est simplement le découplage entre l'élargissement inévitable aux Balkans occidentaux et le progrès politique qui doit se faire au sein de l'eurozone. Ce qui est scandaleux, c'est d'élargir l'eurozone à des pays qui ne sont pas prêts à assumer un destin politique commun. Je pense que ça, nous avons commis une grave erreur avec des critères beaucoup trop économiques et encore très restrictifs pour l'accès à l'eurozone. Fonder une eurozone sur de simples questions de convergence nominale en matière d'inflation est absurde. Soit, c'est fait, mais là, il y a moyen de faire quelque chose, de renforcer, on l'a dit, la gouvernance et le projet. Pour moi, c'est l'Europe à due vitesse qui est la réponse à votre question. Sur la question de l'eurozone et de l'Afrique et du projet européen, pourquoi est-ce que je dis que l'Europe n'a pas de projet? L'Europe a 28. On n'est pas d'accord sur un modèle social. Nous sommes divisés sur le modèle social. Il y a le modèle nordique, il y a le modèle anglo-saxon, il y a le modèle français, il y a d'autres modèles. Il n'y a pas d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord sur la forme que devra prendre l'Union européenne à un moment donné. On veut les États-Unis d'Europe, on veut les Nations unies d'Europe. C'est pas pareil. On n'est pas d'accord sur les frontières de l'Europe. Il y a des pays qui disent, des États membres, il faut faire entrer l'Ukraine, il faut faire entrer la Turquie. D'autres disent non, ces États ont une fonction d'État pont par rapport à des univers différents des nôtres. Et la quatrième question, qui est tout à fait importante, quel est le degré d'autonomie stratégique que nous voulons, nous les Européens? Moi, je suis attaché à l'Alliance Atlantique, mais je crois qu'au sein de l'Alliance Atlantique, l'Europe doit viser la parité politique avec les États-Unis. C'est-à-dire avoir autant d'influence sur les États-Unis que les États-Unis n'ont d'influence sur nous. Et ça, ça demande une défense commune. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à dire, mais ces quatre conditions, elles ne seront pas remplies au niveau des 28, donc on revient à l'eurozone, et c'est l'eurozone qui est le bon noyau, et notamment pour créer un projet qui va mobiliser les gens. Mobiliser les gens, je reviendrai à l'Afrique, mais je veux parler de la raison ici. Vous n'avez pas l'air d'aimer la raison, et vous la jugez peut-être inférieure à la foi. Je présume que là-dessus nous devons être d'accord, on épuise les ressources de la raison, et ce qui reste, on va le chercher là où ça se trouve, c'est-à-dire dans la foi. C'est comme ça que je vois les choses. Mais vous avez besoin de la raison. Vous avez besoin d'expliquer aux jeunes, voilà, chaque pays a son identité, son histoire, on n'y reviendra pas. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Il y a beaucoup de valeurs partagées, il y a de la culture, il y a de la langue, il y a des mœurs, des habitudes, de la gastronomie. Tout ça, c'est la diversité européenne, ça va rester. Il faut que nous soyons capables de transcender ces identités pour agir dans le monde et arriver à porter un projet dans le monde qu'aucun de nos États n'est capable de porter. Mais ensemble, nous pouvons y arriver. Et on a dit ce qu'était ce projet. C'est un projet évidemment démocratique. C'est un projet de croissance raisonnable, acceptable par rapport aux ressources disponibles. C'est une croissance partagée de manière équitable. On intègre les termes, on intègre dans ce projet des valeurs profondes de l'Europe. Et là-dessus, il faut aussi faire appel à la raison pour donner un peu de verticalité au projet européen, aller un peu rechercher ce que sont nos sources. La dignité humaine, héritage judéo-chrétien, la liberté, l'héritage de la raison critique et des Lumières, la justice sociale, héritage des luttes ouvrières du 19e et du début du 20e, tout ça, nous, en Europe, on n'en a pas fait des valeurs simplement proclamées, affirmées de manière rhétorique, on les a intégrées dans nos institutions, dans nos politiques, dans nos systèmes de production et de distribution. C'est ça l'honneur de l'Europe, c'est d'avoir été chercher ces valeurs qui se sont construites au fil de notre histoire et d'en faire une synthèse traduite dans des réalités tangibles, qui vaut la peine non seulement de défendre pour nous, mais de négocier avec les autres. Nous devons proposer aux autres pays du monde qui sont confrontés à des problèmes graves. Vous savez, on parle beaucoup des problèmes de l'Europe, on n'a pas le temps de parler des problèmes de l'Amérique. L'Amérique est une société bloquée. La Chine est confrontée aux problèmes de la pollution, des inégalités sociales, des inégalités régionales. C'est un pays en recherche de quelque chose. L'Europe a la chance d'avoir précédé tout le monde. Nous avons été les pionniers, mais nous devons consolider ça. Et nous ne devons pas nous servir de l'Europe pour démolir au prétexte de la mondialisation. Or, quelque part, par défaut de gouvernance, c'est ce qu'on est occupé à faire. Donc, moi, je crois que la raison est très importante, si vous voulez, dans ce sens. Mais comme vous voyez, je renvoie à des valeurs autrement plus riches et plus profondes que la seule raison. Et j'espère qu'avec ces valeurs-là, on arrive encore à mobiliser les jeunes. Et puis, j'arrive à l'Afrique, parce que l'Afrique, je ne me préoccupe pas trop de l'Afrique, moi. J'ai une vision de l'Afrique qui est assez différente. D'abord, je pense qu'il y a des Afriques et qu'il est temps que nous le reconnaissions et que le concept d'Afrique n'a aucun sens autre que géographique. Par pitié, laissons les Africains commencer à dégager des succès, stories ici ou là. Le vent souffle dans la bonne direction pour l'Afrique. La montée de la Chine, c'est une aubaine pour l'Afrique à une condition. C'est qu'évidemment, les Africains, les leaders africains gèrent ça, cette opportunité à l'avantage de leur peuple et ne soit pas là simplement pour accaparer les bénéfices. Non, mais il y a des pays qui commencent à poser les problèmes. C'est là que les règles internationales sont extrêmement importantes. Écoutez, franchement, on a fait de gros progrès depuis quelques mois sur la question de du secret bancaire. Ça n'amuse pas tout le monde, mais enfin, c'est une réalité qu'on peut maintenant compter sur une coopération entre plusieurs pays pour débusquer la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est la cousine germaine de la corruption. Ce sont les mêmes circuits. Donc du moment qu'on va pouvoir compter sur une plus grande coopération internationale, on peut aider l'Afrique à mieux gérer ses abus, sa corruption, comme on peut aider la Chine, comme on peut aider la Russie. Je veux dire, on est tous sur le même bateau maintenant, hein, donc il faut y aller. Et l'Afrique, je pense que ça reste toujours une inconnue à beaucoup d'égards, mais je ne m'inquiéterai plus trop de l'Afrique maintenant. L'Afrique peut jouer une certaine concurrence entre l'Europe et la Chine à son profit, si elle le fait bien. C'est une question de gouvernance interne. Je crois que c'est d'abord l'affaire des Africains, il n'y a pas de doute, mais ce sera à un moment donné possible si nous les aidons à se constituer. Alors je crois que j'irai... Mais je n'ai pas réglé le cas d'Alstom, mais je laisse Denis Clerc le régler pour moi, entre franco-français.
Je vais régler le cas d'Alstom très rapidement aussi. Hein. Je suis totalement incompétent. Je ne connais pas le dossier. Je m'inquiète effectivement qu'une entreprise importante, j'ai une grande partie de ma famille qui est d'origine belfortaine et des cousins qui ont travaillé à l'Alstom, une entreprise importante du point de vue quantitatif comme du point de vue qualitatif voit sa gouvernance changer de continent et vraisemblablement son siège social également. Je m'en inquiète, mais d'un point de vue industriel, politique industrielle, vaut-il mieux l'un que l'autre? J'en sais rien. J'en sais absolument rien. Très franchement, je me sens incapable de répondre. J'ai plutôt un sentiment favorable à un rapprochement franco-allemand, mais comme il s'agit, avec Siemens, de partager en gros les mêmes marchés, je crains que ce ne soit au détriment de l'emploi. Et vis-à-vis de General Electric, je crains que ce soit au détriment de la gouvernance, du dynamisme, que ça renforce une firme multinationale qui ne s'est pas illustrée dans le passé par ses politiques sociales. General Electric, son patron, a été longtemps affublé du titre, en anglais, de coupeur de coups, COUT, il a licencié des dizaines et des dizaines de milliers de personnes au cours de sa carrière, et aujourd'hui la direction de General Electric est dans la même problématique. Donc dans l'un et l'autre cas, je ne sais pas, mais c'est purement sentimental ce que je vous dis, c'est pas économique. Je n'ai pas le dossier entre les mains. Sur l'élargissement, je partage assez largement le point de vue de Pierre Defraigne. J'ai travaillé pas mal de temps avec Jacques Delors entre 2000 et 2007 au CERC, au Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, dont il était le président. Et très souvent, Jacques Delors nous racontait, c'était une petite équipe, nous étions sept, nous racontait à quel point il était à la fois déçu de la façon dont fonctionnait la Commission européenne et son libéralisme à ses yeux excessif, mais surtout à quel point l'Union européenne avait fait une erreur en voulant que tout le monde aille du même pas, et lui était favorable à une Europe à plusieurs vitesses, et je pense que la position que défend Pierre Defraigne me paraît être la sagesse. On peut très bien mettre en commun des éléments économiques et en partie politiques pour permettre à des pays de sérieusement s'arrimer à la démocratie. Les anciens pays de l'Est, c'est très clairement la raison pour laquelle ils ont été acceptés. Précédemment, la Grèce et avant elle l'Espagne avaient été acceptées, l'Espagne et le Portugal avaient été acceptés pour les mêmes raisons, les arrimer solidement à la démocratie, et ça a été une réussite. Donc ne nous fermons pas à des adhésions, mais considérons que le cœur de l'Europe est constitué de la zone euro, que c'est ce cœur-là dans lequel un certain nombre de dimensions non économiques doivent être mises en commun. Je parlais de la dimension budgétaire, Pierre a parlé de la dimension militaire, ou en tout cas de défense. La dimension universitaire est déjà en partie en route. C'est ce type de construction, point par point, qu'il faut faire avec les pays qui sont mûrs pour les faire et pas avec les autres. En revanche, du point de vue économique, il faut s'ouvrir, et je suis favorable à l'ouverture à la Turquie, parce que c'est un moyen d'empêcher des évolutions sociales régressives, c'est le cas par exemple en Ukraine, ou des évolutions politiques régressives, c'est le cas en Turquie. Je pense très profondément qu'une Turquie ancrée solidement dans l'Union européenne du point de vue économique serait un pas en avant fait pour régler le conflit quasi éternel dans le Moyen-Orient, entre Israël et la communauté arabe. Bon, mais ça c'est un point de vue personnel. L'Afrique, continent sans avenir, non, je crois que l'Afrique est en train économiquement de démarrer, mais qu'il y a un problème. L'Afrique repose aujourd'hui, l'activité africaine repose aujourd'hui à 98% environ sur de la rente, c'est-à-dire sur des matières premières, agricoles ou minérales, dont le prix est fixé sur des marchés mondiaux. Comme ce prix augmente, pour des raisons qu'on a dites, l'émergence notamment de la Chine et de l'Inde, les pays africains en tirent profit et du même coup, les dirigeants africains voient de plus en plus la possession de l'État, la mise sous tutelle de l'État comme étant la seule façon pour eux de s'enrichir personnellement. J'ai toujours été choqué, l'exemple, je le donne souvent, que en Côte d'Ivoire, la cathédrale, enfin l'église de Yamoussoukro ait été construite par Oufouette Boigny sur ses fonds personnels. Elle est plus grande que Saint-Pierre de Rome, il en tirait profit. C'était tout simplement parce que la coutume, et qui prévaut toujours aujourd'hui, est que 2 à 5% des recettes cacaoyères d'exportation soient versées directement dans la cagnotte présidentielle. Et ce qui explique, pour une part importante, les conflits inavouables et dramatiques qui secouent l'Afrique aux mains des plus forts et des plus sanguinaires dans un certain nombre d'États. Il y a d'autres États dans lesquels ce n'est pas le cas, et le Ghana en est un bel exemple. Il y en a d'autres, heureusement, je crois que l'Afrique sortira de cette situation dramatique dans laquelle elle s'est trouvée, en essayant de faire ce que la Chine et l'Inde ont fait, c'est-à-dire en s'industrialisant pour une part à nos dépens. Je vais terminer là-dessus. On parle de l'Afrique souvent en parlant de l'Afrique subsaharienne, mais moi ce qui me pose un drame absolu, c'est l'Afrique du Nord. Il se trouve que je suis pied noir. Mais dans cette Afrique du Nord, il y a un pays qui s'appelle l'Algérie, dans lequel 98% ou 99% des ressources d'exportation dépendent de la rente pétrolière, et aucune activité économique ne naît en Afrique parce que cette rente pétrolière est tellement élevée qu'elle permet d'acheter la paix sociale sans avoir besoin de développement économique. Et donc, l'Algérie est le cas type d'un pays étranglé par sa richesse. Bon, il vaut mieux des pays qui n'ont pas cette rente, je pense par exemple à l'île Maurice ou au Ghana, plutôt que des pays qui vivent trop largement. Les pays pétroliers sont des pays qui, 9 fois sur 10, sont étouffés par leur richesse. Bon. Sur la raison, je ne reviendrai pas. Il faut à la fois du cœur et de la raison. Le désir d'Europe aujourd'hui, c'est très difficile à le construire dans la situation actuelle. Je pense très franchement que la gouvernance européenne a été tellement catastrophique. La gouvernance de la zone euro, plus particulièrement, a été tellement catastrophique en termes de politique économique que le mal est fait. Il ne faut pas se faire d'illusions, les élections européennes seront marquées à la fois par une très grande abstention et par une très forte montée des europhobes ou des eurosceptiques. Ma crainte, c'est que le Parlement européen soit lui-même, qui va avoir de plus en plus de pouvoir, et en particulier celui de désigner le président de la Commission, mais également de prendre, de co-décider désormais avec le Conseil européen, puisque toutes les décisions du Conseil européen devront être validées par le Parlement européen. Je crains beaucoup que ce Parlement soit dominé par des gens hostiles à l'Europe. Alors ça, ce serait un drame. Mais en France, les dés sont joués, on ne reviendra pas en arrière, on n'arrivera pas à convaincre les gens, sauf miracle. Si vous croyez au miracle, tant mieux, moi j'y crois pas, d'aller voter et de voter dans un sens pro-européen plutôt que dans un sens anti-européen. Les choses sont... Nous payons aujourd'hui la mauvaise direction. Et je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Pierre et que je ne partage pas, sur le fait que l'Europe est totalement démocratique. Non, l'Europe n'est pas totalement démocratique. Le Conseil européen, qui est donc l'instance dominante dans la construction institutionnelle de l'Union, ce Conseil européen, donc les chefs d'État et de gouvernement, ou leurs ministres lorsqu'il s'agit de problèmes plus spécifiques, ce Conseil européen est représenté par des chefs d'État et de gouvernement qui défendent les intérêts de leur pays, légitimement. Mais c'est leur pays. Et à 28, il est impossible d'y parvenir. Il y aura toujours un pays qui refusera. Et c'est la raison pour laquelle il faut impérativement que la règle de l'unanimité régresse au profit de la règle de la majorité, notamment dans deux domaines, le domaine fiscal et le domaine social. Sinon, l'Europe continuera à être déchirée, sera incapable de prendre des décisions courageuses, parce qu'il y aura toujours un État qui s'y opposera. Il y aura toujours un blocage. Et donc, il va falloir urgemment rétablir de la démocratie, non pas entre les chefs d'État, mais entre les pays, et que la majorité des pays, désormais, l'emporte sur l'unanimité du Conseil européen. Voilà, ça c'est mon vœu.
Merci Denis Clerc. Peut-être un dernier mot, Pierre Defraigne, avant que nous concluions notre soirée.
Mais il me semble qu'il y a une notion que nous devrions éclaircir. Du moment qu'on donne à l'Europe pour fonction, pour métier, de jouer un rôle dans le monde, voyons bien qu'on ne peut pas gérer l'Europe si on n'agit pas sur le monde, avec le monde. Il y a à éclaircir cette notion très ambiguë qu'on a cultivée depuis 20 ans en Europe, nous sommes une puissance douce. Nous ne sommes pas comme ces brutes d'Américains qui sont une puissance virile. Nous autres, nous venons de Vénus, eux viennent de Mars. Ils sont obésiens, nous sommes kantiens. Ils sont une hard power, nous sommes un soft power. Je voudrais vous rassurer sur un point. Le soft power, le pouvoir kantien, le pouvoir de Vénus, ça n'existe pas. C'est une illusion que l'Europe a cultivée, s'est racontée elle-même, en disant on va influencer par notre attractivité, par notre vertu, notre capacité de gérer les situations. Tout ça, on a perdu depuis les années où on est enfoncé dans la crise, qu'on n'arrive plus à gérer et à préserver notre modèle social, on est en train de perdre ce pouvoir d'influence. Et de toute façon, le pouvoir d'influence, il n'existe que s'il est fondé sur un certain pouvoir stratégique, une certaine capacité stratégique. Vous savez, ce n'est pas la même chose quand vous allez prêcher l'évangile dans le Far West sauvage, de venir avec votre Bible, ou de venir avec votre Bible, mais on voit à l'arrière de votre jeans une bosse, qui veut dire qu'à défaut de la Bible, vous aurez affaire à autre chose. Je pense que nous avons besoin, comme Europe, d'une défense commune. Nous n'existerons pas comme puissance dans le monde si nous n'avons pas tous les attributs de la puissance. La puissance est indivisible. Et on le voit dans l'affaire de l'Ukraine. Je terminerai sur l'affaire de l'Ukraine. C'est un pays qui me fascine, que je connais très bien. J'y étais souvent et j'enrage de ce qui est en train de se passer. Et je vais peut-être heurter certains d'entre vous, mais on est là pour réfléchir, donc pour confronter des points de vue, éventuellement des préjugés. Moi, je crois que l'Europe a fait plusieurs erreurs sur l'Ukraine. La première erreur est vis-à-vis de la Russie. Nous avons laissé la Russie prendre le risque du Big Bang au moment d'Yeltsin.
nous n'avons pas soutenu l'idée d'une transition douce pour la Russie. Nous avons accepté le point de vue américain du choc de libéralisation brutale qui a conduit à la corruption de toute l'élite russe qui est passée du communisme dans l'oligarchie. Ça, et qui a affaibli la Russie économiquement et moralement, et qui a nourri un grand ressentiment chez les Russes quant à leur place dans le monde et quant à leur propre dignité, sur lequel Poutine a construit évidemment tout son imaginaire nationaliste. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que sur l'énergie, nous n'avons pas réalisé notre unité. Il n'y a pas de marché commun européen de l'énergie. Il n'y a pas de politique européenne de l'énergie. Et par conséquent, quand nous parlons du gaz avec Poutine, nous en parlons séparément. En plus, M. Schröder est allé se vendre aux Russes après son mandat de chancelier. C'est pas, il est maintenant président du conseil de surveillance du Gazprom. C'est une chose que de se présenter unis ou de se présenter divisés. Nous avons choisi la division et donc, à la Russie, nous avons contribué, je le crains, à l'enfoncer dans des difficultés structurelles. Nous avons accepté de nous présenter divisés. Nous l'avons inquiété aussi. Comment est-ce que nous avons inquiété la Russie? Quand nous laissons l'OTAN déployer des missiles dans les pays périphériques de la Russie, soi-disant pour nous protéger de l'Iran, mais ces missiles peuvent aussi aller en Russie n'importe où. Hein. Vous ne croyez pas qu'une puissance comme la Russie a lieu d'être inquiète? Quand vous allez plus loin et que vous dites à l'Ukraine, qui est un pays... J'ai lu Grossman et je suis tout à fait sensible à la tragédie, longue tragédie ukrainienne. On leur offre une zone de libre-échange. Excellent projet, vraiment, un des meilleurs projets que l'Union européenne ait jamais défini. Mais une fois qu'on leur a offert ça, qui devait être signé en novembre dernier, qui le sera après le 25 mai, j'espère, je suis plus sûr, on a été ambigu. Au lieu de dire... C'est à la place d'entrer dans l'Union. On leur a dit que c'est une étape pour entrer dans l'Union. C'est-à-dire que nos États membres étaient divisés. Certains disaient c'est à la place, d'autres ont dit c'est avant d'entrer. Les Russes ne sont pas idiots. Ils savent que quand on entre dans l'Union, l'étape suivante, on entre dans l'OTAN. Dans l'élargissement, le scénario a eu d'ailleurs souvent lieu chronologiquement dans l'autre sens. C'est d'abord entrer dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union. Résultat, mettez-vous à la place de... Yeltsin, à nouveau, de Poutine, on a provoqué à nouveau. Alors, je crois que quand on a affaire à Poutine, il faut être fort. C'est clair qu'il faut être fort. Et donc, il faut être uni. Il faut avoir sa défense commune à l'intérieur de l'OTAN. Maintenant, nous sommes livrés main et poing liés aux Américains. Quelle est la politique américaine? Nous n'en savons rien. On parlait des secrets autour de TAFTA, mais ils sont bien réels aussi dans la stratégie que mènent les Américains. Enfin, quand Obama est venu à Bruxelles l'autre jour, Obama est là depuis 5 ans. Il est venu une fois en Europe, à Bruxelles, parler à l'Union européenne. Une fois. Il a parlé pendant 1h30. Il a passé plus de temps à faire une conférence au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, où on avait fait un auditoire sur mesure pour lui, que négocier avec l'Europe. C'est dire la considération qu'il a pour l'Europe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce discours du Palais des Beaux-Arts? Maintenant, il faut que vous soyez unis, on va faire ça ensemble, etc. Et moi, je verrai bien, je veillerai, selon vos besoins, à vous aider à vous libérer de la dépendance énergétique par rapport à la Russie. C'est-à-dire que l'Amérique nous offre maintenant des exportations de gaz de schiste vers chez nous, qui ne voulons pas l'exploiter chez nous, mais on va l'acheter en Amérique. Et c'est l'Amérique qui va déterminer qui dans les États reçoit ce gaz de schiste. Il faut lire ces choses dans le détail. Vous allez être... tout à fait intéressé, parce que ça n'a rien de secret. Cette partie-là de l'iceberg, nous la connaissons, elle est connue. Donc moi, je crois que l'Europe doit vraiment se fixer pour objectif d'arriver à cette unité politique rapidement et qu'elle doit mettre tout dans la balance. On n'est pas... Moi, je crois que la démarche des petits pas, avec des petits pas, on va loin, dit mon ami Van Rompuy, mais On va tellement lentement que le monde change tellement vite que finalement on risque d'être pris au piège. Il faut accélérer et pour ça il faut mettre les données sur la table et il faut avoir des discussions de fond avec les gens. Et les gens se réintéressent très facilement à l'Europe. Moi, je parle souvent à des auditoires de tous acabits, mais notamment des jeunes. Et c'est fini, je ne repars pas du chômage. Oui, on y arrive toujours, à la fin. Mais je commence par l'Ukraine, je commence par des questions comme l'Afrique, par des sujets internationaux. Les jeunes sont naturellement citoyens du monde. Ils voient bien que nos États ne peuvent plus rien faire. Alors, ils peuvent faire du cinéma. J'ai pour la France une considération et une tendresse que vous n'imaginez pas. Néanmoins, quand je vois la France prendre ses responsabilités ou tenter de le faire en Afrique, au Mali, en Centrafrique, essayer en tous les cas en Syrie, et puis que je vois qu'en fait elle n'a pas les moyens de ce qu'elle veut faire et qu'elle désespère d'avoir l'appui des Européens qui le lui refusent. Ça n'est plus tenable. Nos États n'existent plus. J'étais en novembre à Pékin, au même moment que Cameron. Et Cameron venait vendre aux Chinois l'idée que ce serait bien que la City soit choisie comme un des lieux où on allait expérimenter l'internationalisation de la monnaie chinoise, le yuan. Il y a plusieurs pays en compétition pour ça, et notamment Francfort et Londres. Il était là le jour où les Chinois ont, à mon avis, très imprudemment dit interdiction de survoler les îles Diaoyuai ou Senkaku sans l'autorisation du gouvernement chinois. Ce qui est un geste unilatéral extraordinairement fort, que sur le fond du conflit entre le Japon et la Chine, c'est plutôt la Chine qui a raison que le Japon, je ne me prononcerai pas. Mais cet acte unilatéral est décidé le jour où Cameron est là. Cameron est membre du Conseil de sécurité. Il a la puissance nucléaire et il ne dit rien. Et nous faisons la leçon chinoise sur les droits de l'homme. Je veux dire, qui sommes-nous? Allez, fini tout ce cinéma des grandes puissances, les Big Three, l'Allemagne qui ne pense qu'à ses intérêts mercantilistes, la France qui n'a plus les moyens de sa politique gaullienne, l'Angleterre qui devient un univers complètement affairiste et inféodé au mauvais côté des États-Unis. Les États-Unis ont un bon côté, mais malheureusement, la Grande-Bretagne dépend du mauvais côté des Américains. Je crois qu'il faut que l'Europe se réveille, il faut que les gens sachent que seule la réponse européenne est possible et compte.
Oui, merci beaucoup à nos deux intervenants qui nous ont, je crois, vraiment aidés à poser les vrais enjeux européens et qui vont nous aider ainsi à nous préparer aux prochaines échéances électorale. Je vous rappelle le dernier numéro de projet que vous pourrez vous procurer à la sortie de la salle, comment se réapproprier l'Europe. Vous trouverez aussi des urnes où vous pourrez participer aux frais de cette soirée. Je vous rappelle enfin notre dernière soirée d'éthique publique le mardi 3 juin. Que veut Monsieur Poutine? Que faut-il vraiment craindre de la nouvelle Russie? Nous l'avons déjà un petit peu abordé en fin de soirée. N'oubliez pas d'aller voter aux prochaines élections. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.